Bienvenidos a este informativo de
Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité de la semaine vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Avec moi dans ce studio, Laura Maximilien de la rédaction chinoise. Bonsoir.
Bonsoir, ni hao, da jia hao.
Pour la rédaction en russe, Elena Gabrielian.
Dobry vecher.
Christina Okello de la rédaction anglophone. Bonsoir à vous.
Good evening.
On s'intéresse tout d'abord avec vous trois à cette interminable, on peut le dire, feuilleton du Brexit et la confusion qui règne toujours un peu plus d'un mois de l'échéance du 31 octobre, alors que le Parlement a été suspendu pour 5 semaines. Lundi, Boris Johnson se rendra à Luxembourg pour un entretien avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, alors que l'hypothèse d'un no deal semble prendre de l'ampleur au fil des jours. Les conséquences d'un divorce sans accord pourraient être désastreuses d'après un rapport qui a été publié cette semaine. Christina Okello, je me tourne vers vous tout d'abord. Le Royaume-Uni a-t-il franchi le point de non-retour ou bien est-ce que cette rencontre entre Johnson et Juncker permettra-t-elle d'éviter le chaos?
Il faut dire, Loïc, que très peu de gens sont optimistes sur le dossier Brexit, et moi-même compris. J'ai dû même prendre une carte de séjour française, tellement l'incertitude est grande. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, l'a même exprimé jeudi, disant qu'il y avait peu de chances qu'on arrive à un accord de divorce avant le prochain sommet européen d'ici un mois.
Alors, s'il y a peu d'espoir, Christina, pourquoi cette rencontre entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker?
Tout le monde se pose la même question, mais je pense que c'est parce que la position de Johnson est fragile. Après que les députés ont rejeté sa proposition des élections anticipées d'ici 2 semaines, le Premier ministre n'avait guère le choix que de négocier avec l'Union européenne. Et il a essuyé plusieurs revers en peu de temps, y compris la démission de son frère. Et je pense que quand votre propre frère claque la porte en disant vouloir protéger l'intérêt national, ça sème le doute.
Mais pourtant, Boris Johnson, lui, il persiste, il signe, il veut voir sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, et ce à tout prix.
Oui, mais le Parlement fait obstruction, exhortant le Premier ministre britannique a demandé un report du Brexit, même si Johnson affirme qu'il préférait mourir. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière à une journaliste de la BBC. Je vous propose de l'écouter.
Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay?
Donc à la question de la journaliste de la BBC sur s'il comptait retarder Brexit, Johnson répond qu'il préférait finir dans un fossé que de reporter l'inévitable, ce qui est Brexit pour lui.
Alors s'il écarte donc Boris Johnson toute idée d'un report, qu'est-ce qu'il propose pour sortir de l'impasse?
D'après certains médias britanniques, Bojo, comme on l'appelle en Angleterre, Boris Johnson pourrait suggérer un accord de retrait qui inclut un filet de sécurité pour l'Irlande du Nord seulement et non pas pour l'ensemble du Royaume-Uni. Cette filet de sécurité qui s'appelle le fameux backstop a pourri les négociations jusqu'ici.
Oui, mais on a déjà évoqué cette hypothèse à l'époque où Theresa May était au pouvoir.
Oui, mais la donne a changé depuis. La partie unioniste démocratique qui soutenait l'ancien gouvernement de Theresa May a perdu de son influence depuis que Boris Johnson lui aussi a perdu sa majorité parlementaire. Et d'après le journal The Times, le parti unioniste démocratique n'a pas de choix que de revoir ses lignes rouges. Pour l'analyste Keith Boyfield, cette nouvelle souplesse pourrait aboutir à une réunification de l'Irlande. Écoutons-le.
What was indicated in the press reports today was that there would be
Boyfield explique qu'il y a eu un changement d'attitude de la part des unionistes qui sont maintenant prêts à faire des compromis, y compris accepter que l'Irlande du Nord fasse partie d'un système monétaire avec la République d'Irlande. Une telle perspective pourrait permettre à Johnson à négocier un accord avec l'Union européenne. Pour rappel, Bruxelles a toujours voulu éviter un retour des contrôles à la frontière, donc une Irlande réunifiée éloignerait cette perspective. Et la réunification semble être au bout du jour d'après les derniers sondage. Pour Boyfield, le Brexit, malgré son chaos, pourrait encore réserver une belle surprise pour les Irlandais.
Merci Christina Okello. Elena Gabrielian de la rédaction russe d'RFI, qu'est-ce que ce Brexit signifie pour les Russes? Est-ce qu'on s'intéresse justement à ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni?
Oui, on s'y intéresse. La presse russe en parle beaucoup, explique et analyse l'impact que le Brexit et aussi ses différents scénarios pourraient avoir sur la Russie. Alors depuis 2016, depuis le référendum, Moscou cache à peine sa joie de ses résultats, même si lors de sa conférence de presse annuelle, Noël de 2019, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a assuré que la Russie ne se frotte pas les mains après le rejet massif de l'accord sur le Brexit. L'Union européenne unie, forte et indépendante est dans nos intérêts, avait annoncé le ministre russe. Je rappelle que la Russie avait été accusée d'ingérence en faveur du Brexit pour encourager les divisions entre les Occidentaux. Et contrairement à ce qu'annoncent les autorités russes concernant leurs intérêts, plus l'Europe est divisée et occupée par ses crises internes, moins elle est forte face à la montée en puissance de la Russie. Mais certains experts russes estiment que le départ de Londres de la scène européenne peut être bénéfique pour le Kremlin, en pensant que cela peut ouvrir une voie vers le rapprochement entre Bruxelles et Moscou. Car traditionnellement, Londres est l'un des plus farouches critiques de la politique de la Russie.
Donc, quelles peuvent être les conséquences économiques justement du Brexit pour la Russie?
Alors, il est important de rappeler que l'Union européenne est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie. Le scénario du Brexit sans accord et l'éventuel chaos au Royaume-Uni pour la Russie ne représente qu'une menace légèrement moindre que pour l'Union européenne, car la croissance économique sera plus faible. On risque d'ailleurs d'avoir une déstabilisation de l'euro. Et cet hiver, la Russie a retiré ses réserves en euros du dollar. La devise américaine certainement sera renforcée dans un tel scénario. Et le Brexit chaotique peut également provoquer une baisse des exportations vers l'Europe, éventuellement une baisse des prix du pétrole, ce que la Russie craint le plus. Et pour l'automne 2019, la Banque centrale russe a analysé les risques du système financier liés à l'éventuel Brexit. Ils sont qualifiés comme étant faibles. Le journal économique Commerçant informe que ce sont principalement les non-résidents de la Fédération de Russie et les filiales de banques étrangères qui subiront des pertes. Alors, les pertes totales du marché russe suite au Brexit sont estimées à plus de 20 milliards de roubles, ce qui représente moins de 300 000 euros. Ce n'est pas beaucoup, mais les analyses de la Banque centrale russe ne concernent pas les filiales des banques russes au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, sachant que Londres reste un centre financier très important pour la Russie.
Pour la Russie. Laura Maximilien, je me tourne vers vous à présent. Vu de Chine, le Brexit, on en pense quoi?
Les médias spécialisés qualifient le Brexit comme un feuilleton sans fin. On ne comprend rien et tout peut arriver. On sait que le gouvernement Johnson va sortir de l'Union européenne sans accord. Mais Johnson a de plus en plus d'opposants. Mais il ne faut pas sous-estimer ses capacités à rebondir. On sait aussi que le Brexit divise les partis politiques et le pays. Mais le gouvernement Johnson va promulguer la loi de PSW qui a eu les applaudissements de différents partis politiques et les consensus de presque tout le monde, chose rare en ce temps de crise.
Alors cette loi PSW, justement, qu'est-ce que c'est?
C'est un visa qui permet aux étudiants étrangers qui ont terminé leurs études en Angleterre de pouvoir travailler 2 ans au lieu de 10 mois. C'est d'une ratification. Il y a 10 ans, quand l'ancien premier ministre Theresa May était alors ministre de l'éducation, le gouvernement a réduit cette durée de travail. Maintenant, ils reviennent sur leur décision.
Et pourquoi ce changement?
Le gouvernement anglais veut donner un signal positif avant le Brexit et attirer les meilleurs étudiants du monde. Car les Anglais, on constate que depuis, ils ont durci les permis de travail étudiants. Les étudiants étrangers en Angleterre ont chuté de 10%. Dans le même temps, il y a eu une augmentation nette aux États-Unis de 40% et au Canada de 57%. Or, les Anglais ont envie d'attirer plus d'étudiants étrangers car c'est bon pour l'économie du pays.
Est-ce que c'est important justement pour les étudiants chinois, Laura?
Oui, tout à fait. Selon les statistiques de janvier 2019, parmi les 450 000 étudiants étrangers en Angleterre, il y a 100 000 qui viennent de Chine et de Hong Kong, soit presque 1 sur 5. Comme la guerre commerciale USA et Chine qui continue et le durcissement du visa américain vaut pour les étudiants chinois, ceux-ci vont davantage venir en Europe et donc potentiellement en Angleterre.
Alors écoute, justement, Olivia, qui est membre du British Boarding Schools Network, écoutez ce qu'elle nous dit.
Yes, a new post-study
Elle pense que la nouvelle loi du travail est positive pour l'Angleterre d'avoir plus d'étudiants internationaux. Pour l'instant, le Brexit n'a pas d'impact sur son travail et les écoles vont tout faire pour rassurer les élèves internationaux. Elle pense qu'il arrive les bonnes relations franco-anglaises, c'est son plus important.
Laura Maximilien de la rédaction chinoise d'RFI, merci pour cette analyse. On reste avec vous justement, Laura Maximilien. On quitte le Brexit pour la fête de la Lune. C'est aujourd'hui et c'est l'un des sujets traités justement par la rédaction chinoise. Laura, dites-nous en plus sur cette fête de la Lune.
Vous savez, la fête de la Lune, aussi appelée la fête de la mi-automne, représente l'un des deux plus importants événements après le Noël en chinois. Cette fête est célébrée en Chine et dans différents pays d'Asie selon une tradition longue de 2000 ans. Cette fête se déroule le soir du 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. Elle tombe donc ce soir. On voit la pleine lune qui est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, bien entendu quand il n'y a pas de nuages. Pour les Chinois, cette fête symbolise l'unité de la famille et le rassemblement.
Et quelle est la coutume justement lors de cette fête de la lune?
Nous admirons la lune dans les parcs avec la famille et des amis, tout en dégustant les gâteaux de lune. Ces friandises sont souvent rondes, avec des contenus sucrés, salés, parfois la viande. Ce format rond représente l'unité de la famille.
Est-ce qu'il y a d'autres activités?
Tout à fait. Les enfants se promènent avec des lanternes, les lettrés écrivent des poèmes, la famille se trouve et boit du vin. Selon la tradition, l'amitié se fond, les liens de mariage s'établissent sous l'éclat de la lune. Cette fête engendre une atmosphère magique et romantique.
Alors rapidement, comment est-ce que l'on fête la lune à Paris?
Le cercle France Chine Air France ont organisé hier soir une célébration pour l'occasion. On écoute Xiaoping qui est l'organisatrice. Elle a dit que c'est important d'organiser cette fête car en France, il y a beaucoup de Chinois français qui adorent la civilisation chinoise. Cela leur permet d'approfondir leur connaissance de la culture chinoise.
Merci Laura Maximilien de la rédaction chinoise d'RFI. Elena Gabrielia, nous revient avec vous sur cet échange historique entre la Russie et l'Ukraine, échange de prisonniers précisément, c'était la semaine dernière, avec de côté russe un silence sur cette question. Les prisonniers ukrainiens, en revanche, enchaînent les conférences de presse. Hein.
Oui, le 10 septembre, c'est Oleg Sentsov qui a donné sa première conférence de presse, originaire de Crimée. Le cinéaste de 43 ans a passé 5 ans en prison russe. En répondant aux questions de journalistes, l'ancien prisonnier a annoncé qu'il va faire des films et continuer à vivre. Deux choses le plus agréable sur Terre, dit-il. Oleg Sentsov a également assuré qu'il fera tout pour la libération de ses compatriotes encore emprisonnés. En parlant des souhaits de paix de la Russie, le cinéaste a déclaré. Le loup a beau revêtir la peau de l'agneau, ses dents de loup ne disparaîtront pas. N'y croyez pas. Les problèmes n'est pas que Poutine a attaqué l'Ukraine, mais que la plupart des Russes le soutiennent. Cette reprise de dialogue, devenue possible pour plusieurs facteurs, selon Oleg Sentsov, ne signifie pas que la Russie est prête à relâcher l'Ukraine, rendre la Crimée et le Donbass, la région de l'Est séparatiste. Vladimir Poutine ne rendra pas la Crimée, il lui est plus simple de rendre le Kremlin que la Crimée, a annoncé le cinéaste devenu un symbole pour Kiev dans sa résistance face à la Russie. Je rappelle qu'Oleg Sentsov a été arrêté chez lui après avoir protesté contre l'annexion par la Russie de la Crimée, la péninsule ukrainienne. Le cinéaste a été condamné à 20 ans de prison en Russie pour la préparation d'attaques terroristes.
Alors, cette semaine, un autre prisonnier ukrainien, Roman Soutchenko, l'ancien correspondant de l'agence ukrainienne Ukrinform en France, s'est également exprimé devant les journalistes. Qu'a-t-il dit lors de cette première conférence de presse, Elena?
Il a notamment annoncé que son arrestation en Russie était une opération bien organisée par des services russes. Roman Soutchenko, qui travaillait pendant 6 ans à Paris, s'était rendu en Russie en 2016 pour une visite privée. Il a été condamné pour l'espionnage au profit de l'Ukraine, chose que le journaliste a toujours niée. Roman Soutchenko a remercié l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko et aussi l'actuel Vladimir Zelensky, ainsi que les diplomates ukrainiens pour leurs efforts pour sa libération. Il a aussi exprimé sa gratitude à Emmanuel Macron. Après avoir passé 3 ans en prison russe, Roman Soutchenko promet de continuer le combat pour la libération d'autres détenus.
Ми розглядаємо певну таку українську ініціативу, місію якусь, саме створити якісь.
Alors Romain Souchenko dit qu'avec les juristes, ils ont pensé à créer une initiative ukrainienne, une mission chargée de la libération des prisonniers. Il en reste encore une centaine en Russie, sans parler de ceux qui sont sur les territoires occupés, dit Romain Souchenko. Je suis pas expert dans le domaine, mais je suis prête à partager mon expérience. Nous devons sensibiliser la communauté internationale, car c'est un des leviers d'influence important. Les leaders mondiaux, nos alliés, ainsi que les autorités ukrainiennes, doivent faire un effort pour mettre fin à l'utilisation des prisonniers comme une arme dans ce conflit, a déclaré Romain Souchenko.
Elena Gabrielian de la rédaction russe LRFI, dernier sujet de cet accent du monde avec vous, Christina Okello. Cette exposition qui a rendu visible les modèles noirs oubliés de l'histoire, après 4 mois passés au musée d'Orsay à Paris, le modèle noir, c'est le nom de l'exposition, ouvre ses portes aujourd'hui en Guadeloupe, non sans avoir fait sauter les verrous sur la place des noirs dans l'art ou leur visibilité dans la société française. Une société, Christina, qui a toujours eu une composante multiculturelle.
Oui, tout à fait. C'est en tout cas le point de vue de Denise Murel, l'une des commissaires de l'exposition que j'ai pu rencontrer en juillet dernier. Elle explique qu'il y a eu des personnes noires et métisses dès le 19e siècle à Paris qui ont été l'égérie des grands peintres français comme Géricault, Manet ou Matisse, mais sont restés dans l'ombre. Murel a voulu donc leur redonner une visibilité. Je vous propose de l'écouter.
There are many images made by the most important artists.
Denise Murel explique que les personnes noires ont inspiré plusieurs grands portraits durant le 19e et 20e siècle et que ces œuvres prouvent qu'il y avait une véritable présence noire dans les milieux artistiques. Elle souhaite ainsi que cette exposition débouche sur une prise de conscience par la société française de l'importance des noirs dans sa culture créée par des gens de toute origine.
Justement, le fait d'aborder la question de la couleur de peau fait grincer encore des dents. La France n'est pas comme les États-Unis ou l'Angleterre, où le modèle multiculturel est la règle. Ici, c'est plutôt l'universalisme qui domine. Est-ce qu'une telle exposition ne remet pas en cause nos principes ?
Au contraire, selon Denise Murel, le fait de reconnaître les différences pourrait renforcer le sentiment d'appartenance de la population noire en France, dit-elle. Certains fustigent le modèle républicain qui cache les discriminations dont ils sont souvent victimes. Le fait donc de les voir pourrait changer cette réalité.
Et c'est justement, Christina, cette volonté de voir l'autre qui est à l'origine de cette exposition, le modèle noir.
Tout à fait, c'est la servante noire du tableau d'Edouard Manet, Olympia, oubliée de l'histoire qui a attiré la curiosité de Denise Murel. Cette servante, qui s'appelle Laure, a fait très peu d'objets de travaux de recherche, contrairement à la courtisane blanche du tableau, et même moins que le chat qui y apparaît. Denise Murel a voulu donc corriger le tir et a fondé sa thèse de doctorat appelée « Seeing Laure » sur la visibilité de cette servante noire dont l'histoire rejoint celle de nombreux autres modèles noirs oubliés. Murel explique sa démarche et les leçons que la France pourrait en tirer. Écoutons-la de nouveau rapidement.
This idea of moving from being visible, being present.
Donc Denise Murel dit que l'invisibilité de l'or est typique de la condition de la diaspora africaine, présente et pourtant ignorée, et que le fait de rendre visibles les membres de cette communauté et de reconnaître leur qualité pourrait renforcer leur participation dans la République française. Il est beaucoup question du rôle des diasporas africaines en ce moment. Le gouvernement d'Emmanuel Macron en a même fait une priorité. C'est en tout cas l'objet de ma nouvelle série sur la diaspora africaine dont le deuxième épisode sort ce vendredi en version podcast, vidéo et web.
Merci Christina Okello de la rédaction anglophone d'RFI. Thank you. Xie Xie, Laura Maximilien de la rédaction chinoise. Spasiba, Elena Gabrielian. Merci à vous tous donc pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, le retour de l'info sur Radio France Internationale.
Découvrez une série de reportages vidéo inédits sur Alpha Blondie au Burkina Faso. Fin septembre, le reggae-man ivoirien faisait son grand retour au pays des hommes intègres. Antoinette Delafin et Cyril Etienne l'ont suivi de Ouagadougou à Bobo Dioulasso. Ils vous font partager des facettes méconnues de ce géant de la musique. 3 épisodes à retrouver dès maintenant sur musique.rfi.fr et la page Facebook RFI Musique.
Les pas d'Alfred.
Le plus important d'abord, c'était de sauver ma vie. Parce que mon père, il a été pris à la maison, il a été tué. Juste par son appartenance politique, après les élections, crise post-électorale, jusqu'en 2011, la guerre, et bon, voilà.
Dans les pas d'Alfred, une série inédite de podcasts natifs,
proposé par Patricia Blettri, qui raconte le périple d'un réfugié ivoirien en Italie.